La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux.
Il n'y a pas d'édito enflammé sur le communautarisme blanc.
De sujets moins sérieux.
Ça peut être des bois sculptés à partir de formes naturelles interprétées.
De ce qui se passe en Ile-de-France.
Je me disais qu'à Paris, on était en avance sur la province.
Et de débats pas forcément consensuels.
Parlez-nous un peu de cette coupe menstruelle.
Tous les jours, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h sur le 93.9.
Bonsoir à toutes et à tous. Je vais tenter une prouesse ce soir. Je vais essayer d'ouvrir cette matinale sans parler du RN. Pas sûr que j'y arrive. Alors, je vais vous parler de famille. Familia, c'est le titre du film de Francesco Costabile qui sort en salle demain. C'est l'histoire d'une femme et de ses deux fils et d'un bon père de famille. Enfin, en apparence. Car très vite se dévoile la violence de ce père. Tantôt frontale, tantôt insidieuse. Tantôt les coups, tantôt l'humiliation, mais toujours la peur. On plonge dans le quotidien tragique et pourtant tristement banal d'une famille sous le joug du patriarche. Le père ne frappe pas ses enfants, mais il les manipule. Ils grandissent dans la peur et ça, ça laisse des traces. Les deux frères, Luigi et Alessandro, trouvent chacun leur stratégie pour survivre. L'un s'identifie plutôt à l'agresseur, l'autre à la victime. L'aîné déteste son père, tandis que le cadet renoue avec lui à sa sortie de prison et reproduit peu à peu avec sa petite amie des comportements violents. Non sarà sempre così. Il n'en sera pas toujours ainsi. C'est le titre du livre dont est tiré ce film. Un livre écrit justement par Luigi Celeste, le frère cadet. Non, il n'en sera pas toujours ainsi, mais pour ça, il faut que les agresseurs soient condamnés et les victimes reconnues, et pas qu'on les renvoie dos à dos, comme on le voit dans le film, et encore trop souvent dans la réalité, en Italie comme en France, dans une justice qui confond conflit et violence. Et les violences intrafamiliales, comme on les appelle, elles ne sont pas des affaires privées, loin de là. Au contraire, elles nous concernent toutes et tous. L'enquête Virage, publiée en 2020, le montre bien. Une personne sur cinq en France a été victime de violences dans l'enfance. Et cette enquête a été réalisée sur près de 30 000 personnes en France par l'Institut National d'Études Démographiques. C'est donc pas un sondage fait à la va-vite sur quelques personnes qui ont cliqué sur Internet. Une personne sur cinq, ça fait pas mal de monde. Bon, mais cette question, elle est aussi politique. Dans Familia, Luigi rejoint un groupuscule fasciste qui lui offre la reconnaissance qu'il cherche. La violence et la haine des autres sont un mode de fonctionnement qui donne l'impression d'appartenir au groupe, un groupe d'hommes, nous contre eux. Alors, ironiquement, le premier parti héritier du fascisme en France est dirigé par une femme, mais la violence qu'il promeut est bien la même, ne nous y trompons pas. Alors, le premier pas pour éradiquer les violences patriarcales, c'est de les reconnaître, d'en parler et surtout d'écouter celles et ceux qui en parlent. Non, ce n'est pas une affaire privée, pas plus que la montée du fascisme. Alors, merci Luigi Celeste et Francesco Costabile pour ce film poignant et juste. Merci de participer à politiser la famille. La famille qui, pour reprendre le titre de l'ouvrage de l'anthropologue Dorothée Ducy, est bel et bien le berceau des dominations. Au menu ce soir, pour rester dans le thème cinéma et politique, Antoine nous parlera du film Fanon. Léa recevra la pianiste et chanteuse Nina Battisti qui nous parlera de son cabaret des pleurs. Fabien nous donnera quelques nouvelles de l'actualité. Pas sûr que ce soit réjouissant, mais ne perdons pas espoir. Tout de suite, c'est l'heure de l'interview. On va parler d'un sujet lui aussi hautement politique, le compost.
La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir par téléphone Mathieu Pichon, administrateur du réseau Compost Citoyen. Bonjour Mathieu Pichon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce soir.
Merci de m'accueillir.
Alors, pour commencer, j'ai vu que vous vous définissiez sur votre site comme un maître composteur. Est-ce que le compost est un art, Mathieu Pichon ?
Exactement, exactement, c'est un art. C'est pour ça que, alors, c'est pas moi qui me définis, hein. Ça a été défini, les formations sur le compostage, maître composteur, guide composteur, mais maître composteur au sens vraiment artisanat d'art, effectivement, savoir-faire.
Et c'est quoi alors ce savoir-faire ?
Eh bien, c'est de rendre la vie éternelle en transformant des choses qui sont censées être mortes et jetées. Voire aujourd'hui brûler, et les transformer en quelque chose de vivant et qui va justement nourrir le sol, et les plantes vont pouvoir nourrir dans ce sol après.
La vie éternelle, rien que ça.
J'aime bien faire cette petite blague dans le sens où c'est des choses que, voilà, qu'on voit comme des déchets. Le nom l'indique, le déchet, on le met à la poubelle. Aujourd'hui, il est même incinéré. Et l'idée, c'est vraiment de le transformer en quelque chose de vivant et de nutritif pour nous tous derrière.
Alors effectivement, vous parlez de déchets. Est-ce qu'on peut revenir déjà peut-être sur la notion de biodéchets ? Quand on parle de compost, oui. On parle de biodéchets. C'est quoi concrètement un biodéchet ?
C'est un déchet biodégradable. Ça n'a bien entendu rien à voir avec le label bio d'agriculture biologique. Hein. C'est un déchet biodégradable. Et donc, dans ces déchets biodégradables, c'est tous les déchets organiques. Donc, les déchets de cuisine, les déchets de jardin. Voilà pour faire un grand résumé. Mais dans les déchets de cuisine, il y a tous les déchets de cuisine qui sont en réalité compostables. Que ce soit les légumes, enfin les épluchures de légumes, les restes de préparation de repas, les restes de repas, mais également du coup dedans, la viande, le poisson, sont également des choses qui sont compostables.
D'accord, et donc y compris ce qu'on appelle les déchets verts en fait, c'est-à-dire les arbres, enfin si on est là avec des arbres ou ce genre de choses, ça fait partie de ce qu'on appelle les biodéchets.
Oui, tout à fait. Ouais, les déchets de jardin font partie des biodéchets et c'est une ressource qui est vraiment négligé généralement par les gens, alors qu'en fait, les déchets verts, c'est vraiment de l'or pour le sol du jardin. Et c'est des apports qui sont assez importants en déchetterie. Et c'est ça qui est un peu dommage, c'est qu'en fait, la plupart des gens pourraient les gérer sur place chez eux. Et c'est une réelle richesse derrière pour le jardin, en fait, parce que ça va nourrir les micro-organismes du sol, ça va nourrir les bactéries, ça va nourrir les champignons. Et ça va permettre que le sol du jardin, il soit en pleine forme, que le sol, il soit vivant. Et derrière, nos plantes vont pouvoir trouver les nutriments pour se nourrir correctement sans qu'on rajoute des produits achetés en jardinerie derrière. Quoi.
D'accord. Alors, on entend dire un peu tout et son contraire sur ce qu'on peut mettre ou ne pas mettre dans un compost. Oui. Si j'entends bien ce que vous nous dites, on peut presque tout mettre.
C'est ça, tout se composte.
Et alors, est-ce qu'il y a différents types de compost en revanche ?
Alors oui, il existe différents types de compost, de ce qu'on appelle du lombricompostage. Donc là, ça va être de l'élevage de vers de terre dans des bacs à la maison. Et c'est assez facile. Ça fait peur à beaucoup parce que c'est l'élevage de vers de terre dans la maison. Donc il y en a qui ont un peu peur. Mais ça se passe très bien, qu'on respecte bien les règles. On peut faire du compostage en pied d'immeuble. On peut faire du compostage dans un quartier même. Et bien sûr, on peut faire du compostage si on a une petite maison et un jardin. On peut faire du compostage dans son jardin déjà.
D'accord. Et est-ce qu'il y a de... Oui, je t'en prie.
Non, je voulais dire, quand on dit tout se composte, effectivement, la viande, le poisson peut se composter. C'est bien d'avoir déjà une bonne maîtrise du processus avant de commencer à y mettre de la viande et du poisson. Autant commencer d'abord par les végétaux, tout simplement, par les épluchures, c'est plus facile. Et après, une fois qu'on a bien compris comment ça fonctionnait, c'est plus facile derrière de rajouter des matières qui sont un peu plus difficiles à composter, où il faut avoir un tout petit peu plus de maîtrise du process. Mais ça ne va pas plus attirer, par exemple, les rongeurs, parce que les rongeurs sont omnivores.
D'accord. Parce que c'est quoi, justement, les risques là, de mettre du poisson ou du compost ou de la viande, pardon, ou de mal s'y prendre ?
Les risques, si par exemple on n'a pas une bonne montée en température du compost, il peut avoir des risques de développement de bactéries, de pathogènes sur tout ce qu'est la viande et le poisson. Mais encore une fois, c'est si on maîtrise pas bien le processus et une fois qu'on l'a bien pris en charge, il n'y a pas beaucoup de risques. Et sachant que la viande et le poisson, c'est pas des choses qu'on gaspille en général beaucoup vu le prix que ça coûte aujourd'hui, ça reste des toutes petites quantités.
Effectivement. Est-ce qu'il y a des erreurs en particulier qui seraient à éviter pour faire son compost ?
Alors, une erreur, c'est une première erreur qui peut être faite, c'est ne pas croire que les emballages qui sont écrits home compostable ou compostable à domicile le sont. Tout ce qui est soi-disant des sortes de plastique biodégradable, à l'arrivée, ça ne l'est pas vraiment et ce n'est pas à 100%. Sans plastique, donc ça vaut mieux éviter. Et après, ce qui est important dans la recette du compost, c'est faut comprendre la base de, ça paraît des gros mots, mais du carbone et de l'azote, à savoir tout ce qui est déchets de cuisine, tous les déchets qui sont mous et qui sont humides, c'est des déchets qu'on appelle azotés, puisqu'ils ont plus d'azote dedans que de carbone. Et tous les déchets bruns, secs et durs, ça va être des déchets plus carbonés. Et c'est ce mélange des deux qu'il faut faire. Donc souvent l'erreur, c'est de mettre que des épluchures dans un compost, alors qu'en fait il faut l'équilibrer avec des déchets secs et durs, type des feuilles mortes, type du carton quand on est à la maison, et encore plus si on peut du broyat de bois, c'est encore plus efficace.
D'accord, et ça permet quoi du coup cet équilibre?
Eh bien cet équilibre, ça permet derrière d'avoir un compost qui va avoir, qui va avoir toutes les qualités nutritives pour y faire pousser des plantes, mais également de trouver un équilibre entre trop d'humidité et le fait qu'autrement ça va fermenter de façon anaérobie, c'est-à-dire en absence d'air. Et si on ne met pas assez de carbone et qu'il y a trop d'absence d'air, eh ben, ça va dégager des mauvaises odeurs parce que ce sera les mauvaises bactéries entre guillemets, qui vont prendre la place.
D'accord. Et ben justement, pour vous évoquer les mauvaises odeurs possibles que peut dégager un compost, comment est-ce qu'on peut faire pour éviter ça en pratique?
Donc, première chose, la recette carbone-azote à essayer de respecter, un équilibre entre les deux. Et l'autre chose, c'est le fait de brasser régulièrement. Ce qu'il faut comprendre dans le compost, c'est pour ça que je parlais d'anaérobie, enfin en tout cas d'absence d'air, c'est qu'il y a deux types de bactéries qui dégradent la matière organique. Il y a les bactéries qui aiment l'air et il y a les bactéries qui n'aiment pas l'air. Mmh. Nous, ce qu'on veut dans le compostage, c'est les bactéries qui aiment l'air. Et donc, quand on apporte des choses dans notre composteur, c'est bien de pouvoir les mélanger et même de brasser régulièrement son compost, mettre un petit coup de fourche, par exemple, dans son compost, minimum une fois par mois, pour relancer, en fait, pour remettre de l'air. Ça remet de l'air de brasser et ça permet aux bactéries qui aiment l'air de prendre la place et d'empêcher les bactéries qui n'aiment pas l'air de venir.
D'accord.
Parce que c'est elles qui vont faire en sorte que... Enfin, c'est elles qui vont nous donner une mauvaise odeur.
D'accord. Ok, très clair. Et bah alors, concrètement, donc, quand on pense au compost, on pense souvent aux personnes qui ont un jardin, peut-être qui habitent à la campagne, mais comment est-ce qu'on fait quand on habite dans un appartement ?
Alors, oui, donc vous savez que depuis le 1er janvier 2024, la loi oblige que tous les citoyens trient à la source les biodéchets, donc ne jettent plus ces biodéchets dans la poubelle ordure ménagère. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas aux citoyens d'être responsables de ça. C'est à sa collectivité qui a la compétence déchets, donc soit la commune, soit l'intercommunalité, soit le syndicat de déchets, qui doit proposer une solution aux gens, aux habitants, aux citoyens, pour pouvoir ne plus mettre à la poubelle leurs déchets organiques. Et pour ça, ça peut être des composteurs en pied d'immeuble, ça peut être des composteurs de quartier, ça existe aussi, voire même... Et après, il y en a aussi, comme je disais tout à l'heure, qui distribuent des lombricomposteurs, donc qui peuvent le faire directement dans leur appartement ou sur leur balcon, sans problème.
D'accord, donc ça pose pas de problème d'en faire dans son appartement directement.
Non, le lombricomposteur, c'est tout à fait faisable dans son appartement. Par contre, pour ce qui est du compostage en pied d'immeuble ou par quartier, ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière, ça doit être cadré et organisé. Il doit y avoir des personnes qui sont formées référents de sites, alors souvent des bénévoles qui sont formés référents de sites de compostage, et le site doit être suivi par un maître composteur pour s'assurer en fait que les bonnes pratiques elles soient bien mises en place et que tout se passe bien.
D'accord. Et certains de ces composteurs, ils peuvent être gérés par les copropriétés ou par des groupes de personnes, comment dire, qui passent pas forcément par de l'institutionnel. Je veux dire, ça peut être de l'associatif ou du local.
Oui, alors il y a dans une copropriété ou en pied d'immeuble, effectivement, les gens ils peuvent se réunir et se dire on va faire du compost ensemble. Ce qui est quand même important de comprendre, c'est que quand on le fait collectivement, si on veut que ça fonctionne bien, c'est toujours mieux d'être accompagné par des professionnels qui vont pouvoir vous guider et vous donner un coup de main s'il y a quelque chose qui ne va pas.
D'accord. Ouais.
Mais ça peut être tout à fait géré de façon bénévole par des citoyens.
D'accord, très bien. Et ben, justement, nous allons parler de plus en détail de votre association et de ses professionnels juste après cette petite pause musicale. On revient après Garden of Eden de Lady Gaga.
Come on, DJ, come on, DJ, come on,
C'était Garden of Eden de Lady Gaga. Et tout de suite,
la matinale de 19h.
Nous sommes avec Mathieu Pichon. Est-ce que vous êtes toujours avec nous ?
Je suis toujours présent.
Administrateur du réseau Compost Citoyen. Nous parlions de la mise en place de compost partagé et de la manière dont les professionnels, dont les personnes de votre association, peuvent aider à mettre en place des composts partagés. Comment ça se passe ?
Oui, alors nous en fait on est un réseau national qui porte le compostage de proximité partout en France. On a été créé en 2009 et aujourd'hui on réunit 1200 adhérents et dans nos 1200 adhérents on a des citoyens, on a des professionnels du compostage et des collectivités. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est que nos professionnels qui sont adhérents à notre association, donc ils travaillent sur les différents territoires partout en France. Ils sont eux-mêmes soit dans des associations, soit dans des entreprises. Donc, ils mettent en place du compostage de proximité. Donc, comment ça se passe en général ? Il y a un accompagnement soit d'une collectivité. On peut accompagner une collectivité pour déployer la gestion des biodéchets au plus près de ou là où ils sont produits. Et donc, comment on fait en général, on les accompagne via, on commence par un diagnostic pour savoir combien de biodéchets sont produits sur le site qui envisage de faire du compostage, par exemple un collège. Et on va faire une campagne de pesée, on va faire tout un travail sur le gaspillage alimentaire et on va faire un diagnostic pour pouvoir leur proposer des solutions pour gérer le compost sur place, pour gérer les biodéchets sur place. Et donc, dans ces cas-là, c'est un projet global où on va mettre autour de la table, alors là, je vous parlais par exemple d'un collège, on va mettre autour de la table du principal au personnel de cuisine, aux délégués, aux éco-délégués par exemple, et on va mettre tout le monde autour de la table pour trouver des solutions pour que après ça se fasse dans le temps, qu'ils puissent régulièrement gérer leur composteur tout seul et qu'on puisse les accompagner en venant régulièrement ou en répondant à leurs questions quand ils en ont besoin. Ce qui est important de comprendre, c'est que le réseau Compost Citoyen, on porte la formation en fait sur le compostage. Et donc, quand on met en place des sites, comme je vous disais tout à l'heure, il faut que ce soit un maître composteur qui accompagne pour la mise en place d'un site. Et ensuite, il faut qu'il y ait des personnes qui soient formées référentes sites de compostage. Et de la même façon, c'est un organisme de formation charté par le réseau Compost Citoyen qui va pouvoir faire ces formations-là.
D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est à la fois de l'accompagnement, de la formation, mais aussi une sensibilisation, disons, de la pédagogie aussi autour de ce que sont les déchets, de comment les biodéchets et comment les valoriser, c'est ça ?
Oui, exactement. C'est vrai qu'on parle avec des acronymes. Nous, on parle de PGPROX. La PGPROX, ça veut dire prévention et gestion des biodéchets de proximité. Donc il y a vraiment le côté prévention. C'est vraiment très important pour nous parce que avant de vouloir gérer un déchet, le plus important c'est de le prévenir pour pas qu'il soit produit.
C'est quoi ? Ça passe par quoi par exemple la prévention ?
Ben ça va être comment limiter le gaspillage. Alors si on parle de l'alimentaire, ça va être comment limiter le gaspillage alimentaire, à savoir on peut réutiliser une bonne partie des déchets qu'on pense des déchets de cuisine, hein, notamment dans les éplucheurs, il y a une bonne partie qu'on peut réutiliser. C'est aussi des conseils tout simplement sur comment organiser sa liste de courses. Un petit détail, ne jamais faire des courses le ventre vide. Gérer dans son frigo les choses pour faire attention aux dates et ne pas se dire c'est bon, j'ai un composteur, je peux le jeter, c'est pas grave, je mets ça dans le compost. Ça, c'est important avant même de le jeter dans le compost, de se dire, mais est-ce que je peux quand même le manger ou pas? Et après, quand on parle de jardin, la prévention des déchets sur le jardin, ça va être comment mettre en place une gestion, on va dire, différenciée, mais surtout une gestion intégrée des déchets que je produis, à savoir faire en sorte qu'il y a peut-être des endroits où je ne suis pas obligé de tondre. Par exemple, la ville de Pantin, qui a mis en place la gestion, ils appellent harmonieuse des espaces verts, ils ne tondent pas avant la fin mai. Parce qu'ils savent que s'ils commencent à tondre avant, ils vont produire plus de déchets. Donc, c'est des choses comme ça. Après, c'est réutiliser directement les déchets verts au jardin pour éviter de les exporter. Et tout ça, en plus, ça va créer, encore une fois, ça va créer ce qu'on appelle de l'humus. Et ça va permettre au sol d'être plus poreux, d'avoir une meilleure vie, d'avoir plus de respiration et d'avoir plus de bactéries et de micro-organismes derrière qui seront nécessaires pour la vie du sol.
Donc on voit bien effectivement que faire son compost, c'est bien plus que toutes les actions concrètes qui permettent de le mettre en place, mais c'est vraiment un sujet politique et de société. D'ailleurs, votre association s'appelle Réseau Compost Citoyen. Mathieu Bichon, oui. En quoi faire son compost, c'est un acte citoyen ?
Ben, c'est un acte citoyen parce qu'aujourd'hui, en moyenne en France, on produit environ une demi-tonne de déchets par habitant et par an. Donc là, je parle de tous les déchets globaux. Mmh. Et donc, être capable de gérer une partie de ces déchets, ben, c'est faire en sorte que la collectivité n'a pas cette charge-là. On oublie souvent que quand on parle de collectivité, ben, en fait, c'est nous tous. C'est notre argent à tous. Donc ne pas aller à la déchetterie pour jeter ses déchets verts et les faire sur place, c'est un acte citoyen.
Tout à fait. Alors, j'aimerais revenir sur un point. On parlait tout à l'heure des bornes d'apport de biodéchets, suivant la loi dont j'ai oublié la date, mais que vous évoquiez tout à l'heure, qui oblige les communes à le mettre en place. Qu'est-ce qu'ils deviennent, les déchets qu'on apporte dans ces bornes-là ? Est-ce que ça va dans des composts ?
Alors, c'est vrai que je ne vous en ai même pas parlé des points d'apport volontaires. J'ai parlé des composteurs de quartier ou des composteurs en pied d'immeuble. Mais il y a aussi ce qu'on appelle, ce que vous avez dit, les points d'apport volontaires. Et donc, les points d'apport volontaires, c'est des endroits où on va déposer les biodéchets directement. Et ensuite, ils vont être collectés et ils vont être emmenés en Ile-de-France, quasiment exclusivement en méthanisation. Donc dans des usines qui vont transformer ces biodéchets en gaz. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui serait important pour nous, au Réseau Compost Citoyen, c'est que l'argent que les collectivités mettent pour les points d'apport volontaires et derrière la collecte de ces points d'apport volontaires, ça serait bien aussi qu'ils mettent la même somme en face sur la prévention et la gestion de proximité. Parce que l'avantage du compostage de proximité, c'est de pas. Déjà, on a moins de camions sur les routes, ce qui va créer moins aussi de CO2 et de pollution atmosphérique. Et puis, ça va être géré sur place. Ça va nourrir aussi les sols d'où ont été produits ces déchets. Et on sait que les sols en milieu urbain, notamment, ont vraiment un gros problème de matière organique. Ben, les sols tout court, les sols en France tout court ont des problèmes, manque de matière organique. Et donc, d'exporter sur des sites industriels, c'est un peu dommage par moment. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire et qu'il n'y a pas des endroits où c'est pertinent de le faire. Mais ça serait bien que les collectivités mettent les mêmes sommes en face de la collecte. Ils mettent la même somme en face sur la prévention et la gestion de proximité.
Tout à fait. Et d'ailleurs, en parlant des déchets plus globalement, est-ce que vous pouvez nous rappeler quel est l'intérêt de séparer les déchets alimentaires du reste ? Et de ne pas les incinérer tout le reste
Ne pas les incinérer, la première chose, c'est aujourd'hui, nos déchets ordures ménagères, quand on met nos déchets organiques dans les ordures ménagères, comme vous avez dit, ça finit incinéré. Les déchets alimentaires, c'est très souvent de l'eau, en fait. Clairement, une feuille de salade, c'est 70 à 80% d'eau. Donc, nos déchets alimentaires, les mettre dans un incinérateur pour les brûler, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études scientifiques pour savoir que brûler de l'eau, c'est un peu bizarre. Donc déjà, ça, c'est la base, c'est de se dire, ces déchets alimentaires, plutôt que les brûler, qu'est-ce qu'ils pourraient être ? Et quand on sait, en fait, que quand ça se transforme en compost, c'est vraiment quelque chose de très nutritif pour les sols. Je vous parle beaucoup des sols depuis tout à l'heure, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point les sols sont des écosystèmes qui nous permettent énormément de choses. De manger, mais les médicaments, de capter le CO2. Enfin, il y a énormément de choses. Les sols nous permettent vraiment de vivre sur Terre. Donc les voir se dégrader et enlever les déchets organiques pour les mettre dans un incinérateur tout le temps, c'est un cycle infernal, alors qu'il y a un cycle vertueux qui est fermé. Enfin non, c'est un cycle infernal dans le sens où c'est plus un cycle, excusez-moi, je dis un cycle infernal, mais non, ça devient linéaire. On produit des déchets, on les met dans un incinérateur, on les brûle, alors que le cycle vertueux fait que on produit des déchets, ils sont transformés en compost, ils sont remis au sol, ce qui reproduit de la nourriture, ce qui permet de reproduire de la nourriture, etc. quoi.
Tout à fait, tout à fait. Alors, peut-être une question plus sociétal, qu'est-ce que vous répondriez, Mathieu Pichon, à ceux qui dirait que le compost, c'est un truc de bobo.
Oui, alors qu'est-ce que je pourrais leur répondre? Qu'est-ce que je leur réponds en général? Bah, que les gens qui font du compost dans les campagnes, c'est pas des bobos pourtant, ils font toujours du compost, ils ont toujours fait du compost. Alors j'entends bien que énormément de mouvements se font dans les par les villes sur du compostage. Beaucoup dans les villes se mobilisent à ce sujet-là et peut-être que certains voient ça comme une lubie de bobo. Sauf que comprendre le sol, comprendre comment ça fonctionne, ça n'a rien de bobo. En fait, c'est tout ce qu'on a fait depuis toujours à la campagne et voilà. Je comprends pas trop qu'on puisse penser ça. Alors, enfin, moi, ce qui me choque vraiment et ce qui m'a choqué une des choses qui m'a motivé de rentrer dans le monde du compostage, c'est quand j'ai vraiment pris conscience que ouais, nos déchets alimentaires, on les brûlait. Et donc derrière, on perdait de matière organique pour les sols et derrière, ça nous permet aussi de parler alimentation, agriculture durable et qu'est-ce qu'on fait de tout ça, quoi.
Tout à fait. Et ben oui, effectivement, je pense que c'est vraiment ce qui me semble clé dans la démarche, c'est de, enfin, tout ça, le compost, ça nous permet en fait de nous réintéresser, de nous reposer des questions à des choses qui sont masquées, qu'on ne voit pas, qui sont ce qu'on fait de nos déchets et de voilà, de les remettre sur la place publique et de les remettre en débat.
Oui, et à la fois les déchets et à la fois l'alimentation, c'est pour ça que je dis souvent le compost, c'est une excuse aussi pour parler d'alimentation et comment on produit notre nourriture aujourd'hui. C'est une question politique.
Tout à fait. Eh ben, nous allons devoir nous arrêter là. Cet entretien était passionnant. Merci beaucoup, Mathieu Pichon.
Merci à vous.
Espérons que les questionnements que vous placez sur la table soient entendus. Merci beaucoup.
Je vous remercie. Au
et revoir. Tout de suite, nous allons écouter Vilaine de Anastasia.
Take it back. All that you left within me. All the doubt and the lack. And the knocking of insecurity. Take it, take it back. All the anger and the fury. Thank you.
C'était Vilaine de Anastasia. Et tout de suite, c'est l'heure du Flash Info.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Bonjour Fabien.
Bonjour. Après l'annonce de la mort du pape, les réactions ont afflué du monde entier. De très nombreux dirigeants politiques ont salué la bonté du pape, un humaniste qui savait donner de l'espoir, protéger le dialogue et dont l'héritage ne sera pas perdu. Le cercueil du souverain pontife doit être transféré mercredi matin à la basilique Saint-Pierre de Rome, où les fidèles pourront lui rendre un dernier hommage. Lundi, de nouvelles attaques ont été recensées contre des personnels pénitentiaires. Des tirs par arme à feu et des cocktails Molotov ont visé un lotissement où résident des surveillants dans le département de l'Isère. Les assaillants ont revendiqué le mitraillage. Elles sont signées DDPF pour droit des prisonniers français. Des dizaines d'universités américaines, dont Yale, Princeton et Harvard, ont dénoncé l'interférence politique du gouvernement de Donald Trump en plein bras de fer avec Harvard sur le gel des subventions fédérales destinées à cette institution prestigieuse. L'administration américaine accuse les universités d'avoir laissé prospérer l'antisémitisme pendant les mouvements étudiants contre la guerre à Gaza, ce qu'elle réfute. Emmanuel Macron est en visite à La Réunion mardi 22 avril. Le chef de l'État a annoncé des dispositifs d'urgence pour améliorer l'accompagnement des zones touchées par le cyclone. L'épidémie de chikungunya occupe également les discussions. Et enfin, pour terminer, culture, une tapisserie d'Aubusson est exposée depuis quelques jours à l'entrée du pavillon français à l'Université universelle d'Osaka au Japon. C'est une formidable vitrine pour cet art séculaire inscrit au patrimoine de l'UNESCO et dont le savoir-faire se perpétue dans les ateliers creusois. Jusqu'en mai 2025, le Collège des Bernardins accueille 15 tapis et tapisseries inspirés de l'œuvre de Tolkien et confectionnés pendant 7 ans par des ateliers de la Cité internationale de la tapisserie. La visite est gratuite et pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site collegedesbernardins.fr.
Merci Fabien. Il est 19h37, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus Paris et tout de suite, c'est l'heure du Zoom.
Le Zoom, dans la matinale de 19h.
Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Nina Battisti.
Bonjour,
bonjour
Nina.
Bonjour.
Vous êtes pianiste et chanteuse,
oui.
Mais vous produisez aussi sur scène dans votre spectacle Le Cabaret des Pleurs.
Oui.
Vous allez nous en dire plus tout de suite. Je laisse la parole à Léa qui va mener cette interview. Bonjour
merci.
Léa.
Bonjour, merci Thomas. Aujourd'hui parlons amour. L'amour, même s'il provoque grande joie, émerveillement, mais aussi doute et tourment, il reste toujours notre source d'inspiration. Nina Battisti, tu es chanteuse et tu chantes l'amour avant tout.
C'est tu vas ça. Bien ?
Bah ça va et toi ? Bah écoute, on est ravis de te recevoir ce soir à l'occasion de la sortie imminente de ton EP Le Cabaret des Pleurs. Alors avant de s'intéresser plus particulièrement à cette sortie, je voulais d'abord revenir sur ce que ça veut dire l'amour pour toi. Pourquoi tu chantes l'amour sans cesse ?
Bah je sais pas si... En fait, j'ai pas d'inspiration si je parle d'autre chose. Donc je m'inspire un peu de ma vie quotidienne et en général c'est vraiment porté sur l'amour. Enfin je suis un peu une amoureuse de l'amour donc c'est vraiment ce qui m'inspire tout le temps quoi. En fait j'arrive pas à parler de mes amis parce qu'ils me font pas souffrir donc de toute manière l'amour sera plus simple quoi.
D'ailleurs, c'est quelque chose que tu dis dans ton titre La Télévision, qui est sorti l'année dernière et qui a cartonné. Tu dis que tu n'arrives à t'intéresser à rien d'autre que l'amour. Ouais. Donc, c'est vraiment la première source d'inspiration qui te vient quand tu veux écrire.
Ouais, ouais, de ouf. Et ça me saoule parfois parce que je me dis, bon, bah, quand je me force à écrire sur autre chose, bon, parfois j'arrive à écrire.
Ah, donc t'essayes quand même.
Oui, 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 oui. J'essaie, mais en général, j'écris sur mon adolescence, par exemple, où c'était un peu la catastrophe. Mais même là, ça ne m'inspire pas trop parce que je me dis, bon, bah, c'est passé. Alors que l'amour, en général, c'est catastrophique dans ma vie, donc ça peut le faire. Mais là, en ce moment, ça se passe bien niveau amour. Du coup, bah, je n'ai pas d'inspiration.
Ah mince. tu pourrais quand même nous dire que pour toi, l'amour est du coup un sujet qui a peut-être plus de profondeur et peut-être plus de choses à dire, pour toi en tout cas, d'autres sujets. Ouais. Tu penses que c'est quelque chose qui est sans fin ?
Je ne sais pas pourquoi ça m'intéresse autant, l'amour, mais pour moi, il y a tellement de choses à dire... que je pourrais en parler des heures, quoi.
Alors aujourd'hui sort bientôt, le 16 mai, ton EP Le Cabaret des Pleurs. Le Cabaret des Pleurs, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce choix-là ? Pourquoi ce titre ?
Alors très honnêtement, j'étais avec mes managers et j'avais aucune idée de comment appeler mon concert, mon premier concert que j'ai fait le 6 mars. Et j'ai un de mes managers qui m'a dit, bah... J'ai pensé au le cabaret des pleurs et j'ai fait bah, mais il disait un peu pour rigoler quoi. Et moi j'étais en mode bah non c'est génial, viens regarde ça. Et après les semaines passent et j'ai ma pote Loana qui me dit bah comment tu vas appeler ton EP? J'ai fait je sais pas, moi je suis trop nulle pour les titres. Elle m'a dit bah pourquoi tu l'appelles pas le cabaret des pleurs comme tes concerts? Je fais ok, vas-y, vendu. Et en fait c'est pas moi vraiment qui ai trouvé cette idée, c'est pas moi du tout même, mais c'est moi qui ai validé en gros. Et je me suis dit mais c'est génial, c'est complètement évident, donc le cabaret des pleurs, let's go. Ça me correspond.
Donc, décision un peu à la dernière minute, mais qui finalement colle bien.
Bah, pas tant à la dernière minute que ça, parce que c'était quand même 2-3 mois avant la sortie de l'EP, mais vraiment, sinon, j'avais pas d'idée, quoi. En mode, je voulais l'appeler quoi ? Amour, trop nul. Donc, non, le cabaret des pleurs, voilà, très bien.
Le cabaret des pleurs, donc on l'a dit, sort le 16 mai prochain, mais il y a déjà un de tes titres qui est disponible, qui est sorti il y a 4 jours, qui s'appelle
C'est quoi d'être amoureuse ?
Et alors, qu'est-ce que tu dis dans ce titre ?
Bah, je me pose la question de c'est quoi d'être amoureuse, j'ai toujours pas trouvé la réponse, mais je me pose plein de questions, je me remets en cause plusieurs questionnements de ma vie, quelle conclusion je tire de chaque relation, au final toujours les mêmes, c'est j'ai plus envie de tomber amoureuse et au final c'est un peu une boucle infernale, et voilà, c'est vraiment le résumé de mes questionnements, quoi.
Donc là, on a ce titre-là qui revient sur tes questionnements. Plus largement, tu traites de l'amour sur tous les titres qui vont sortir le 16 mai. Ce serait quoi le message principal que tu essayes de donner avec cette création-là ?
Je sais pas si je cherche à donner un message, mais je pense que j'essaie vraiment d'être le plus sincère possible dans tous mes morceaux. Et j'espère vraiment que les gens vont réussir à se retrouver. En fait, moi, j'ai trop envie que les gens se retrouvent dans ma musique et que quand ils l'écoutent, ils disent « Ah, ok, je suis pas seule là-dedans. » Ou alors « Ah, ok, ça m'aide à surmonter cette rupture ou ma journée. » Voilà, et se dire que mes morceaux peuvent leur parler. Mais j'ai pas forcément de message. J'ai plus j'essaie juste de faire comprendre que ça arrive à tout le monde d'être triste et de...
Je vous vois, je vous entends, voilà. J'en écris quelque chose.
C'est ça, exactement.
Alors, pour te connaître un peu mieux, tes sources d'inspiration sont iconiques. Ce sont ces grandes dames de la chanson française, Barbara, Véronique Sanson, que tu cites d'ailleurs dans certains de tes titres. Comment ça arrive dans ta vie, cette influence-là ?
Vraiment toute petite, dans la voiture, pour aller dans ma maison au village quand j'étais en Corse, parce que j'habitais en Corse. Un petit CD de Barbara qui traîne au fond de la voiture, et là je me rends compte que waouh, la chanson française c'est génial. Et petit à petit, quand j'ai commencé à avoir mon iPod, mes petits trucs, mais si j'ai commencé à écouter Véronique Sanson, Françoise Hardy, je me suis dit waouh, là il y a un truc, et j'ai toujours trop aimé la chanson française, quoi. Donc c'est vraiment venu petite, et puis après j'ai continué à écouter petit à petit, j'ai découvert plein de morceaux petit à petit.
Et tu dirais que ce sont des inspirations qui t'ont vraiment guidée dans le travail que tu fais aujourd'hui ?
Ouais, complètement. Complètement, parce qu'en fait, déjà, Véronique Sanson, Barbara, on est vachement sur du piano-voix. Enfin, c'est d'excellentes pianistes. Et moi, j'ai toujours fait du piano depuis petite. Et j'ai fait du piano. Et puis après, j'ai commencé à composer. Et naturellement, les accords que je trouvais, les harmonies, les mélodies, même les inspirations de texte, je pense les structures et tout, ça s'est fait naturellement. Comme faisait Véronique Sanson sur Barbara, je ne compare pas du tout ce que je fais à Véronique Sanson, ce serait hyper prétentieux de ma part.
C'est pour ça qu'on dit inspiration.
Voilà, exactement. Et il y a plus ce truc de structure musicale, de sincérité que j'ai envie de dégager la même sincérité que ces artistes-là, quoi. Et donc, ça, en fait, ça s'est fait naturellement, je pense, en fait, à force d'écouter. Je pense que vraiment, ça s'est fait, mes doigts et ma mélodie ont fait genre, ok, bon, on va faire un peu dans le même délire, quoi. Tout en ajoutant ma touche perso quand même. Mais
évidemment. Voilà. Mais donc du coup, forcément, ces inspirations qui sont vraiment... la chanson française, c'est le langage. Ouais. C'est important pour toi, le langage, dans l'écriture de l'amour ? C'est quelque chose que vraiment, tu te sens pointilleuse dessus ?
Sur l'écriture ?
Oui. Est-ce que le langage, le choix des mots, la manière d'approximer ce thème-là de l'amour, c'est quelque chose où tu t'es un peu pris de la tête ou c'est sorti un peu tout seul ?
Non, en vrai, non. Je me prends pas la tête sur mes paroles. Si ça sort pas, ça sort pas, donc je compose pas. Mais c'est très très rare, je crois que je l'ai jamais fait d'ailleurs. Revenir sur un titre, changer les paroles. Non, j'ai jamais fait.
Genre, tout d'une traite.
Ouais. Parce qu'en fait, si je reviens dessus, je vais plus aimer mon morceau. Faut pas que j'écoute trop mes morceaux avant de les retravailler, parce que sinon, je les sors jamais. Donc voilà.
Alors, tu l'as dit tout à l'heure, tu joues du piano, tu es même allé au conservatoire. C'est quelque chose qui est présent dans ta vie depuis toujours. Le piano, il prend quelle place dans ton processus de création ?
Il prend beaucoup de place. Trop de place. Je suis encore au conservatoire actuellement. Et en fait, je fais du piano vraiment beaucoup, beaucoup. Et du coup, dans mon processus de création, il est indispensable parce que je commence mes morceaux piano-voix. Je n'arrive pas à commencer autrement par une prod, par exemple, parce que je prod aussi mes morceaux chez moi. D'accord. Avec Logic Pro. Si je commence pas avec un piano, j'ai l'impression que c'est pas mes morceaux. Même si le piano après finit sur Logic Pro et qu'il se transforme en un, je sais pas, en synthé électrique ou peu importe, il faut que j'ai une base piano-voix pour vraiment sentir que c'est à moi ce morceau, quoi. Donc vraiment, il prend une très grosse place, sinon sans ce piano, il n'y aurait pas de morceau, je pense.
Ouais, c'est la question que j'allais poser. Ça veut dire que pas de création sans piano, c'est quelque chose que tu peux pas dissocier. Peut-être pas instinctivement.
Non, pas naturellement. Après, j'ai fait un guitare voix avec un pote qui fait de la guitare et c'est venu assez naturellement, mais parce qu'il a pris des harmonies stylées et tout que je prendrais aussi au piano. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup plus de mal à composer un truc quand c'était pas moi qui jouais. Voilà, donc là, il a joué de la guitare, c'était cool, mais j'avais quand même envie de poser quelques trucs de piano. Moi, je l'ai pas fait, mais au final, le guitare voix est très stylé, mais quand même, le piano voix est indispensable pour moi, quoi.
Est-ce que tu sens parfois que tu ouvres tes possibilités d'un point de vue proposition musicale, ou tu sens que tu as un style qui commence à s'installer et tu es plutôt bien dedans?
Je pense que j'ai vraiment un style, j'ai trouvé vraiment une ligne directrice sur mes musiques, mais ce sera pas pour tout de suite, mais je fais beaucoup aussi de morceaux qui virent un peu vers l'électro, limite la house, et je fais un peu des prods dans ce genre-là, mais mélanger ça à de la variété française, je fais vraiment ça et j'adore. Enfin, je trouve ça très stylé, mais je sais pas encore comment l'amener dans mes morceaux, donc ce sera pas pour tout de suite, mais déjà dans mon live, le Cabaret des Pleurs, vous pourrez voir que il y a de l'électro, il y a du piano-voix, il y a de la pop, variété française, il y a vraiment tout, et j'aime bien qu'il y ait ce fil conducteur de « il y a moi », mais je peux aller un petit peu partout. Mais c'est vrai que pour l'instant, dans mes sorties, on reste sur de la pop variété française. Mais moi, j'aime bien aller un peu à droite, à gauche, quoi.
Alors, tu l'as mentionné, tu es en train de te donner en concert. Donc, il y a déjà eu le 6 mars qui est passé, qui a été complet. Il y a le 14 mai qui arrive bientôt. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu joues et qu'est-ce qu'on retrouvera dans ta représentation?
Je joue au 3 Baudets.
C'est où, ça?
C'est à Pigalle. Rue de Clichy, je crois.
690,
bref, je ne sais plus exactement l'adresse. Mais l'endroit est très stylé. Et du coup, bah, il y aura tous mes morceaux qui sont sortis, plus des exclus, mais tous les morceaux de l'EP aussi. Donc vraiment, en fait, il n'y a que des morceaux trop cool.
C'est que de la découverte, quoi.
C'est que du kiff. Bon, en même temps, je ne vais pas vous dire que mes morceaux ne sont pas bien, sinon je ne vais pas bien vendre mon, pas bien vendre mon truc.
Évidemment, pour revenir rapidement sur ces morceaux-là que tu crées, pour en avoir écouté quelques-uns, il y a vraiment toujours ce côté très aérien, je trouve, dans ce que tu proposes. Est-ce que c'est directement lié avec le thème de l'amour? C'est une intention que tu mets en place
dans ma façon de chanter, tu veux dire, dans ma
non,
façon d'interpréter?
Dans l'accompagnement musical, le choix des notes, des instruments, comment est-ce que tu viens habiller ton propos?
Ça aussi, c'est pas vraiment réfléchi à l'avance, c'est plus qu'est-ce que je veux, quand je fais ma prod par exemple, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre. Et en général, ça revient toujours un peu à la même chose, c'est très basique, on a une basse, des drums, souvent acoustique, limite une petite guitare en fond et des synthés un peu, comment dire, un peu avec une atmosphère chill, je sais pas comment dire, mais c'est toujours un peu la même chose en fait. Les choix des instruments et des sons, des sonorités, on se rejoignent tous un petit peu. Et quand je finis en studio, on garde un peu les mêmes sons, mais on les rend encore mieux. Et après, le mix les rend encore mieux et le mastering aussi. Et voilà. Mais oui, je pense qu'en fait, naturellement, ça fait un peu des connexions dans mon cerveau. Et genre, bon, bah là, ce son, ça va aller pour ce morceau et pour ce morceau. Et tout va aller assez naturellement dans le processus de prod, quoi.
Voilà. Faire des duos ou t'associer avec d'autres artistes, c'est quelque chose que t'aimerais faire?
Avec des duos? Oui, ouais. Yes, grave, de ouf.
T'as des idées, t'as des envies, t'as...
De star, genre?
Ce que tu veux, ce qui te vient.
Philippe Catherine.
Ah oui, rien que ça.
Bon, un jour peut-être.
On te le souhaite.
Ouais, moi aussi, je me le souhaite. Mais ouais, j'adore Philippe Catherine. Je le trouve trop perché, ce mec. Et en même temps, c'est un putain de musicien. Pardon pour le gros mot. C'est un artiste de malade. Enfin, quand on écoute vraiment... Je sais pas pourquoi je vais m'étaler sur Philippe Catherine. Je vais
Allons-y.
Faire vite.
C'est un artiste
vraiment tellement complet et il a tellement osé des choses que pas beaucoup de gens ont osé et en même temps il est tellement dans l'air du temps. Je sais pas comment dire. Enfin, moi je kiffe trop. Je franchement avec plaisir pour faire un feat Philippe.
Bon bah j'espère qu'il nous entend. En tout cas, déjà très prochainement on pourra t'entendre au 3 Baudets donc à Pigalle.
Ouais.
On va pouvoir découvrir ton nouvel EP.
Le Cabaret des Pleurs.
Voilà. On a hâte de l'entendre. Merci beaucoup d'être venu ce soir,
bah,
de nous avoir un petit peu expliqué ton projet, tes créations, tes envies. Puis à très bientôt, j'espère.
À très bientôt. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Léa, pour cette interview. Merci. Lina Matissi. On vous retrouve donc le 14 mai au 3 Baudets. Et tout de suite, on écoute votre titre « C'est quoi d'être amoureuse ?» de Nina Matissi.
C'est quoi d'être amoureuse ? On m'a dit que c'était beau. un peu trop. C'est rempli de papillons, rempli de sensations folles qui t'assomment,
qui t'assomment.
Si tu es malheureuse, on m'a dit tombe amoureuse, c'est facile. Tu auras les yeux qui brillent, un petit pic dans la poitrine qui t'anime. C'est pour ça que j'ai pris le dernier métro pour te voir ce soir. Je n'ai plus sommeil, je veux seulement me taire et aimer. Te croire encore, aime-moi. Mais j'ai pas envie de tomber amoureuse. De toute façon, je ne sais pas être amoureuse. Maman m'a dit que c'était beau d'être amoureuse. Alors je rêverai peut-être d'être amoureuse.
Quoi d'être amoureuse de Nina Battisti. Merci d'être...
La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris et je laisse la parole à Antoine pour sa chronique ciné et politique. Bonjour Antoine.
Salut, je souhaitais aujourd'hui vous parler du film Fanon réalisé par Jean-Claude Barnier en salle depuis le 2 avril dernier.
Vas-y. Antoine, on t'écoute.
En 1953, Frantz Fanon, médecin psychiatre originaire de Martinique, arrive dans la colonie française qu'est l'Algérie. Il vient d'être nommé médecin-chef de la clinique psychiatrique de Blida-Joinville. Dès son arrivée, Fanon est confronté au racisme ordinaire qu'il a lui-même connu en Martinique, la plus ancienne colonie française. Fanon découvre l'horreur du colonialisme en Algérie, où ses patients algériens sont attachés et enfermés, contrairement aux patients français pouvant circuler comme ils le souhaitent au sein de l'hôpital. Un contraste très fort dès les premiers plans qui a décidé de mettre en avant le réalisateur du biopic, Jean-Claude Barnier. Les nouvelles pratiques de Fanon dérangent, un homme noir mettant à mal les pratiques du colonialiste et du blanc dominant. De nouvelles méthodes mises en place par Fanon qui contrastent avec celles des autres médecins en plein contexte de colonisation. Très vite, Fanon s'organise et rejoint le mouvement du FLN, Front de Libération Nationale, en contribuant à faire sauter le monde colonial. Si je vous parle et vous recommande aujourd'hui ce film, c'est avant tout parce qu'il aborde des sujets et des thèmes trop oubliés dans les livres d'histoire et dans les manuels scolaires. Violence, racisme et pensée intellectuelle anticolonialiste. Dans l'Algérie coloniale, la violence n'épargne personne, aussi bien colonisateur que colonisé. Le film met également en avant les troubles psychiatriques que produit cette violence autant chez les tortionnaires que chez leurs victimes. À travers les thèses et les écrits de Fanon, les spectateurs perçoivent un rappel très clair des mécanismes par lesquels la violence se répand au sein d'une société. Frantz Fanon, c'est aussi un intellectuel très peu connu dans l'histoire de la médecine française, mais aussi pour ses essais autour du colonialisme en Martinique, mais aussi en Algérie. Autre thème abordé par le film, la déshumanisation, illustrée par les massacres entre colonisés et colonisateurs dès le plus jeune âge. Cette déshumanisation, illustrée par les nombreux plans de violence du film, mais systématisée dans l'Algérie française permet également une bonne piqûre de rappel sur l'histoire et les violences qu'ont subies les Algériens durant cette colonisation et trop peu abordée dans le débat public et politique. Le réalisateur Jean-Claude Barny aborde un sujet tabou que les personnalités politiques françaises ont toujours cherché à esquiver. C'est bien plus que l'histoire de Frantz Fanon qui est racontée dans ce biopic. C'est aussi une œuvre de mémoire, un rappel pour ce qui n'a pas assez été raconté, mais également une analyse critique de la société actuelle. L'une des forces de ce film, et qui fait son succès malgré un certain boycott dans les salles de ciné, c'est le jeu des acteurs. Alexandre Boyer, pour son interprétation extrêmement juste de Fanon, qui nous plonge dans le personnage, dans ses pensées, mais aussi dans son militantisme actif, à la fois sur le terrain, en aidant les Algériens, mais aussi à travers ses écrits. Déborah François interprète quant à elle Josie Fanon, épouse de Frantz, qui est également mise en lumière dans son film et qui souligne le rôle primordial de Josie dans l'épopée algérienne de Fanon. À travers les rencontres qu'elle photographie, le personnage de Josie Fanon guide en quelque sorte les spectateurs dans une émotion extérieure et assez pacifique malgré le fait qu'elle soit elle-même contre la colonisation. Je vous conseille avec très grand intérêt ce film à aller voir au cinéma qui vous touchera émotionnellement, vous rappellera une histoire trop oubliée du colonialisme en Algérie et des sujets actuels qui nous touchent notre société et qui sont également abordés par le film.
Merci beaucoup Antoine pour cette chronique sur ce personnage politique et intellectuel aux multiples facettes qui gagne à être mieux connu et que je vous encourage moi aussi à aller voir. Et tout de suite, c'est la fin de notre matinale. Un grand merci à nos invités Mathieu Pichon et Nina Battisti. Merci également à toute l'équipe qui était à mes côtés ce soir, Fabien au Flash Info, Léa au Zoom, Antoine à la chronique, sans oublier Joey à la réalisation, et bien sûr Maïwen et Alice à la coordination de notre matinale de 19h. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre confiance. Restez à l'écoute de Radio Campus Paris.